Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. C'est une rencontre particulièrement attendue, la demi-finale France-Maroc ce soir à 20h lors de la Coupe du Monde de football. Un match historique, c'est la première fois qu'une équipe africaine et qu'une équipe arabe atteint ce niveau. Dimanche, l'une des deux équipes affrontera l'Argentine en finale, l'Argentine qui a hier soir éliminé la Croatie. Cette rencontre France-Maroc sera retransmise sur grand écran à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Son président, Jack Lang, espère que cette fête restera amicale. Vous l'entendrez. Regarde dans votre journal sur les atouts des Bleus et sur ceux des Lions de l'Atlas. Abdellah Tourabi, journaliste et chroniqueur marocain, reviendra sur le magnifique parcours de l'équipe marocaine. Sur les performances des Bleus, nous écouterons Jean-Baptiste Guégan, enseignant, journaliste, spécialiste du football. Le verdict est tombé mardi soir dans le procès de l'attentat de Nice après 3 mois d'audience. Les 8 accusés sont déclarés coupables par la cour d'assises spéciale de Paris. L'attaque terroriste au camion Bélier le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Deux pays retiennent leur souffle avant un match inédit à ce niveau de la Coupe du Monde de football. La demi-finale France-Maroc à 20h. Les champions du monde en titre joueront face aux Lions de l'Atlas. Dimanche, l'une des deux équipes affrontera l'Argentine en finale. L'Argentine qui hier soir a éliminé la Croatie 3-0. Cette rencontre France-Maroc sera retransmise sur grand écran à l'Institut du Monde Arabe. Son président Jack Lang espère que cette fête restera amicale.
J'ai décidé que l'Institut assurerait une retransmission en direct sur le grand écran du match, comme nous l'avions fait voici quelques jours, le match Maroc-Portugal avait été ainsi présenté à de nombreux visiteurs. Alors ce soir encore, ceux qui se seront inscrits à temps viendront participer à cette fête du sport, qui je l'espère restera une fête amicale.
C'est important de le souligner. Vous avez entendu le mot du sélectionneur marocain Walid Regragui qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de débordement.
Il a raison. Il a entièrement raison. Je pense que si, quand on a l'esprit du sport, c'est-à-dire de la compétition loyale, on doit éviter toute forme de débordement. Et, d'autant plus qu'il s'agit, en l'occurrence, de deux pays amis, de deux peuples frères, de deux peuples qui travaillent en permanence l'un avec l'autre. Donc, je pense que chacun veillera à ce que la joie des uns ne se transforme pas en mécontentement chez d'autres. Je ne vais absolument pas préjuger ce que sera le résultat. Il faut surtout veiller à la loyauté de la confrontation et préserver coûte que coûte l'esprit d'amitié.
Le président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre notamment de la Culture, Jack Lang, il répondait à Loïc Barrière. Le foot est déjà une manière de rassembler les gens, de faire passer des messages positifs. Je pense que ça doit être une fête en France. C'est ce qu'indiquait ce mardi le sélectionneur du Maroc. Walid Regragui s'exprimait en conférence de presse de veille de match. Pour les Marocains qui ont grandi en France, les Africains, ça doit être une fête. Ça ne reste que du foot, qu'on gagne ou qu'on perde, a-t-il ajouté. On se connaît que le meilleur gagne, selon les mots de Walid Regragui. Gros plan sur l'équipe marocaine, dont le parcours suscite l'admiration. Entretien avec Abdellah Tourabi, journaliste et chroniqueur au Maroc.
Ça se voyait déjà dans les rues. Samedi dernier, je suis descendu, comme beaucoup de Marocains, je descendais dans la rue. Je peux vous assurer que je n'avais jamais vu autant de monde, des jeunes, des vieux, toutes classes sociales confondues. Jamais vu autant de monde dans les rues de Casablanca et aussi dans les autres villes du Royaume. La dernière fois on a vu ça, c'était en 2004, c'était la qualification du Maroc quand ils jouaient la finale de la Coupe d'Afrique en 2004, donc ça commence à remonter. Et donc voilà, c'est un moment historique que ils sont en train de vivre. Cette équipe, elle suscite une fierté nationale. D'abord parce que voilà les résultats que cette équipe a pu concrétiser, a pu avoir en battant de grandes équipes européennes, mais aussi pour ce qu'elle commence à représenter, non pas seulement au Maroc, mais aussi dans le monde arabe et en Afrique. Quand on regarde un tout petit peu les vidéos, les couvertures médiatiques des chaînes du monde arabe et aussi en Afrique, quand on regarde les réseaux sociaux, on s'aperçoit de tous les espoirs et ce qu'on représente actuellement cette équipe du Maroc pour l'Afrique, pour les pays du monde, pas les pays africains, mais aussi pour les pays du monde arabe. Donc cette équipe ne représente plus elle-même, ne représente plus un pays, mais elle représente tout un continent et tout un air géographique et culturel.
C'est un destin qui est en jeu.
C'est un destin. Enfin, tout le monde rêve d'une finale. Ce serait un moment historique. Et je pense que les mots qui ont été prononcés par le sélectionneur national Walid El Kanaghi sont des mots qui sont très très forts parce que il a dit qu'on joue contre l'équipe de France, non pas pour la figuration et pour le plaisir d'être en demi-finale. Déjà, ce qui est un exploit, non, il dit il faut aller beaucoup plus loin. Et si on est là, c'est pour gagner la Coupe du Monde et non pas pour jouer une demi-finale. Donc oui, c'est un destin et c'est quelque chose d'historique qui est en train de s'écrire. Enfin, historique du point de vue, bien sûr, footballistique, évidemment.
Avec une certaine proximité entre ces deux équipes.
Évidemment, c'est un match qui est assez particulier, pour les raisons que l'on connaît, que l'on devine. Tout d'abord, les liens entre les deux pays, le fait aussi qu'il y a de milliers de Marocains qui vivent en France, des milliers de Franco-Marocains, des gens qui sont des binationaux. Aussi, on le voit, l'équipe nationale du Maroc, quand on voit par exemple que le coach Walid El Kanaghi, lui-même il est franco-marocain, il y a certains joueurs comme le capitaine Ranem Saïs, comme Bouffel, etc. Aussi d'autres pays européens. Donc c'est particulier. Mais aussi de l'autre côté, il y a d'autres joueurs qui sont aussi d'origine marocaine, comme Gendouzi, qui a joué un match contre la Tunisie. Donc c'est un match qui est assez particulier. Pour bien sûr, pour les deux pays, mais aussi pour les acteurs, les protagonistes qui seront sur le terrain.
Au début, les victoires des Lions de l'Atlas étaient qualifiées de surprise. Or, il s'agissait de victoires bien méritées liées au jeu des Lions de l'Atlas.
Oui, la surprise, c'est une surprise, c'est un match ou deux. La surprise ne vous permet pas d'être premier de votre groupe. Avec deux grandes équipes européennes, la Croatie et la Belgique. Je rappelle que la Croatie était finaliste à la dernière Coupe du Monde et la Belgique qui était classée numéro 2 mondiale. La surprise, ne vous permet pas de gagner, d'aller enchaîner des victoires contre l'Espagne, contre le Portugal, avec une défense qui est juste exceptionnelle. Et donc, les atouts de cette équipe marocaine, c'est d'abord plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un sentiment de cohésion, un sentiment de solidarité qui existe entre joueurs, qui a été nourri par l'arrivée de Walid El Kanaghi à la tête de cette équipe. On sait très bien, Walid El Kanaghi, pour les personnes qui suivent un tout petit peu le football au Maroc, c'est quelqu'un qui a cette capacité à fédérer les joueurs derrière lui. Il était entraîneur de l'équipe de Wydad de Casablanca, et au bout d'un an, il a remporté le championnat du Maroc, mais aussi il a remporté la Champions League africaine, qui est la compétition la plus importante en Afrique après la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi des joueurs qui sont de classe internationale. On connaît des joueurs, par exemple, qui sont en France. Hakimi, par exemple, Achraf Hakimi, qui joue au PSG. Mais il y a aussi Mazraoui, qui joue au Bayern de Munich. Il y a Amrabat, qui est joueur à Fiorentina. Donc, on a des joueurs qui n'ont rien envié à ceux qui sont en face. C'est-à-dire que, même au niveau de la composition de l'équipe nationale, il y a des atouts au niveau des joueurs. Bono, le gardien, certains découvrent Yacine Bono, le gardien de l'équipe nationale, pendant cette Coupe du Monde. Sauf que Bono a été élu la saison dernière meilleur gardien au championnat d'Espagne, devant de très, très grands gardiens de but. Donc, il y a une alchimie qui existe actuellement. Il y a des qualités individuelles, mais aussi il y a cette rigueur tactique que l'on voit sur le terrain et qui explique pourquoi cette équipe est considérée actuellement, selon les statistiques, c'est la meilleure défense pendant cette compétition.
Et c'est une équipe qui suscite l'admiration au sein de l'ensemble des générations au Maroc.
Oui, pour différentes raisons, parce que c'est pas seulement une équipe qui joue au foot, mais parce qu'il y a des valeurs qui sont liées à cette équipe. On l'a vu par exemple ces images, des joueurs qui ramènent leur maman avec eux au stade et qui voient même les mamans qui descendent sur la pelouse. Donc il y a cette notion qui est très très importante chez les Marocains, c'est-à-dire le lien à la mère, à la famille, etc. Donc c'est une valeur qui est très très importante. Il y a aussi quelque chose qui est admirable chez cette équipe, c'est aussi une grande humilité. Une grande humilité, c'est-à-dire que on n'est pas devant des des joueurs, excusez-moi l'expression, qui se la racontent. C'est-à-dire on est devant des joueurs qui font montre voilà, d'une grande discipline, d'une grande rigueur, une confiance en soi, mais tout en restant modeste, tout en restant voilà, les pieds sur terre. Donc on n'est pas devant une équipe avec des joueurs qui flambent, c'est-à-dire on est devant des joueurs qui restent extrêmement accessibles. On le voit dans les conférences de presse, ils n'arrêtent pas de rigoler, enfin, raconter des blagues, etc. À l'image de Bono, le gardien des buts de l'équipe nationale, qui arrête des pénaltys avec le sourire. Donc je pense que c'est une image qu'ils ont tout à fait admirable.
Et des joueurs qui vivent un rêve éveillé.
Oui, je pense que voilà, enfin, qui vise la consécration finale, vise non pas seulement enfin, ce qui est déjà un exploit enfin, en lui-même, c'est-à-dire qu'il est la première équipe africaine et du monde arabe qui arrive à ce niveau-là, une demi-finale, mais aussi c'est le rêve ultime, c'est de pouvoir jouer la finale et pourquoi pas remporter cette fameuse Coupe du Monde.
Le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi, gros plan à présent sur les atouts des champions du monde en titre, entretien avec Jean-Baptiste Guégan, enseignant, journaliste et spécialiste du football.
L'équipe de France aujourd'hui, elle est, j'ai envie de dire, dans la continuité de 2018, c'est-à-dire que c'est une équipe jeune, qui prend peu de risques, défensivement fiable, avec un énorme potentiel offensif. Probablement, avec l'Angleterre, c'était l'équipe qui avait le plus de chances de marquer. Elle a la chance d'avoir un joyau qui est Kylian Mbappé et d'excellents joueurs autour de lui, hein, que ce soit Griezmann, Dembélé. Et puis derrière, on a la chance d'avoir un milieu de terrain qui se révèle. On n'attendait pas Adrien Rabiot à ce niveau-là, on attendait encore moins Aurélien Tchouaméni. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui a été capable de se hisser en demi-finale de Coupe du Monde, là où beaucoup l'imaginaient difficilement dépasser le 8e.
Une équipe qui a pu surprendre, elle aussi.
Alors c'est une équipe qui a pu surprendre et c'est une équipe aussi qui s'est surprise hein, elle-même. C'est-à-dire que elle avait des ambitions, elle n'avait pas forcément les convictions qu'elle avait avec, elle avait beaucoup d'absents, que ce soit Benzema, Nkunku, Kanté, Pogba. La liste des absents est assez impressionnante, hein, c'est quasiment une équipe complète. Et malgré ça, cette équipe performe, elle est dans le dernier carré, elle peut prétendre à la victoire finale, ce qui était difficilement envisageable en jour dernier.
Et vous l'avez souligné, il y a des joueurs qui se sont démarqués lors de cette compétition.
Exactement, d'abord l'immense talent de Kylian Mbappé s'est confirmé à nouveau dans une phase finale de Coupe du Monde, 4 ans après 2018. On a vu des joueurs qui se sont révélés qu'on n'attendait pas à un tel niveau de performance, Adrien Rabiot, et puis d'autres joueurs qui ont toujours été les valeurs sûres, je pense à Antoine Griezmann. Aujourd'hui, on a une équipe de France qui montre la plénitude finalement de son talent, sa variété, et qui sera encore capable de surprendre. Sera-t-elle capable d'aller jusqu'à la fin et donc de décrocher une deuxième Coupe du Monde de suite ? L'avenir nous le dira.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris lors de ce Mondial 2022 ?
Alors, ce qui est le plus surprenant dans ce Mondial 2022, c'est la capacité de l'équipe de France à se mettre systématiquement au niveau de son adversaire et à être redoutable, impitoyable du point de vue offensif. C'est-à-dire qu'on l'a vu être capable de tanguer, plier, sans jamais rompre, en piquant systématiquement derrière. Et on l'a vu contre l'Angleterre, hein, qui une fois encore a été meilleure que nous, à l'image de la Belgique en 2018. Et malgré ça, on gagne. Cette culture de l'efficacité, on ne l'avait pas avant Didier Deschamps, et il faut lui en être gré.
Et d'un point de vue plus global, sur l'ensemble des équipes qui ont été en course, quels sont les éléments les plus surprenants pour vous ?
Ce qui est déjà formidable dans cette Coupe du Monde 2022, c'est la réussite de l'Afrique, avec l'immense performance du Maroc, qui a réussi à sortir l'Espagne, qui était un vrai favori et un épouvantail. C'est aussi la sortie du Brésil, inattendue, mais qui correspond finalement à ce qu'on pouvait voir. Elle n'avait jamais vraiment rencontré d'opposition. Et donc, on est sur une Coupe du Monde qui est assez étonnante, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel niveau de spectacle, à une telle débauche offensive, et à prendre finalement autant de plaisir, là où finalement tout le monde redoutait une Coupe du Monde de moins bonne qualité, parce que se jouant en hiver et au Qatar.
Cette réussite de l'Afrique que vous soulignez, comment l'expliquez-vous ? Est-ce lié notamment à la formation ?
Alors la réussite de l'Afrique dans cette Coupe du Monde, c'est d'abord la réussite des entraîneurs africains, et finalement la rationalisation des politiques publiques en Afrique, de ce point de vue-là, c'est aussi le fait d'avoir bénéficié des formations assurées dans les autres pays, notamment en Europe. On a beaucoup de binationaux dans ces équipes, que ce soit à la tête des sélections, hein, je pense à Walid Regragui ou à Rigobert Song, et en même temps, de l'autre côté, on a des joueurs qui ont été formés aussi en Europe, hein, en Belgique, en France ou ailleurs, et donc ils ont tiré le meilleur des deux systèmes, et poussé par des environnements beaucoup plus rigoureux, ils performent. C'est exactement ce qui arrive au Maroc aujourd'hui. C'est la synthèse, finalement, du football marocain avec des moyens associés à des joueurs formés en Europe. le tout dirigé par un entraîneur qui a pris Didier Deschamps comme modèle, qui est Walid Regragui, et qui a fait toute sa carrière en France, et qui est même natif de Corbeil-Essonne.
Et ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde, pensez-vous que les différentes équipes appréhenderont le prochain mondial différemment ?
Alors, la Coupe du Monde 2026 sera différente, parce qu'elle se jouera à 48, sur trois états différents. Cette Coupe du Monde, finalement, au Qatar, elle va laisser des traces aussi, parce qu'on a vu qu'avec une préparation courte, le rapport de force pouvait changer. On ne sait pas, finalement, comment se déroulera cette Coupe du Monde 2026 exactement. On n'a pas de vision claire hein, des phases de groupe. Et donc, on sera plus sur l'ordre de l'incertitude. Après, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, elle laisse finalement la possibilité de voir des tendances émerger. C'est l'essor de l'Afrique, la confirmation de la présence de l'Asie et une moindre capacité des Sud-Américains à s'imposer.
Jean-Baptiste Guégan, enseignant, journaliste et spécialiste du football. 10 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et sa région, sont mobilisés ce mercredi soir en France pour encadrer les célébrations en marge de cette demi-finale France-Maroc. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, précise que les Champs-Élysées ne seront pas fermées à la circulation. Au moins 4 personnes sont mortes et 43 autres disparues après un naufrage dans la Manche. Des candidats à l'exil qui tentaient de rejoindre les côtes britanniques. Des bateaux et des équipes de sauvetage de plusieurs villes du sud-est de l'Angleterre ont été mobilisées, ainsi que 2 hélicoptères britanniques. 3 militaires irakiens ont été tués, 3 blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe. Une déflagration au passage de leur véhicule de patrouille dans une zone agricole au nord de Bagdad. Le verdict est tombé hier soir dans le procès de l'attentat de Nice après 3 mois d'audience. Tous les accusés sont déclarés coupables par la cour d'assises spéciale de Paris. La cour a prononcé des peines allant de 2 ans à 18 ans de prison à l'encontre des 8 accusés. Ils sont reconnus coupables d'infractions à la législation sur les armes et pour 3 d'entre eux d'associations de malfaiteurs terroristes. L'attaque terroriste au camion Bélier le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h30 est Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine. Une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Thank you.